Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce deuxième épisode de Jason Ballon Rond, le podcast d'actualité de la planète soccer où on parle autant de ce qui est proche de nous avec le CF Montréal, la MLS, mais aussi les grandes ligues d'Europe et tout ce beau tralala. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec des collaborateurs magnifiques comme d'habitude. Douali Ibrahim, Thomas Lafont et un nouveau qui se joue avec nous pour une première fois à Jason Ballon Rond, Nicolas Charon. Comment ça va, les gars?
Ça sent très bien. Bien fatigué, grosse journée. Bien,
ouais. Grosse journée, ouais.
En forme. Très content d'être là. Je trouve ça le fun, ce podcast de soccer. C'est...
Ouais.
Ah, ben oui. Ben oui. Tout à fait. Comme on l'a dit dans le dernier épisode, lors du premier épisode, ça fait longtemps au Club École qu'on espérait un podcast de soccer. Ben là, on l'a. Et puis, on le continue. On le rappelle, on va essayer que ça soit hebdomadaire. Puis là, les gars, la Coupe du Monde est à 4 jours. Ça se rapproche énormément. Votre niveau d'excitation, c'est à son comble, là, j'imagine. Là.
Ben oui. Écoute, je pense qu'ils ont même dépassé le comble.
Ah ouais, ouais.
Moi, tu sais, qu'est-ce que j'ai hâte? En fait, je pense m'acheter un chandail du Canada, mettons un chandail à genre 50$, là, mettons, pas un chandail à genre 170$. Là,
en tout cas, sur des rues, c'est tout.
Mais non, mais à 50$,
c'est pas non, mais pas faire n'importe quoi, me pointer à l'école avec ce chandail-là en disant « Hey yo, c'est ma Coupe du Monde, foutez-moi la paix. » T'sais, genre, je veux vraiment ça. Puis après ça, ben t'sais, j'ai quelques amis à moi qui c'est des indépendantistes, donc ça se peut qu'ils me regardent de temps, mais c'est pas grave. C'est pas la cause.
Mercredi, 14h,
tu veux t'acheter un chandail comme de contrefaçon, tu sais, avec des noms fucked up, genre Davy, mais à la place de l'autre Davies, quelque chose comme
ça. Ouais. Gauté, c'est très fort, ça.
Excellent callback, man. Excellent callback. Bon, pour ceux qui comprennent pas, fallait être là. Mais bref. Ouais, mais je pense... Ouais, exact.
On n'a pas besoin de remonter. Là. On va pas garder ça en exact. Doute. C'est sûr d'y se passer.
Ouais, aussi. Puis je pense que pour les indépendantistes, là, la Coupe du Monde, c'est comme une pause. Là. Tu peux prendre une pause, ouais. Puis après ça, tu reprends parce que quand le Canada est impliqué.
Comme pareil, je suis impliqué.
Yes. Bon, ben là, pour ce podcast-ci, on ne commencera pas par la Coupe du Monde. On va revenir à la Coupe du Monde vers la fin si on a le temps. Mais on va commencer avec quelque chose de plus près de nous, donc le segment sur le CF Montréal, parce que hier, en fait, c'était la date limite pour, du côté de tous les clubs de la MLS, soumettre les clubs, en fait, pas les clubs, mais les contrats dont l'option allait être exercée ou non. Et puis là, pour les joueurs du CF Montréal, il y a plusieurs joueurs dont l'option n'a pas été exercée, entre autres les deux gardiens, James Pantemis et Sébastien Breza. Donc là, on a vu la gestion des gardiens cette année. On s'est promené pas mal entre les deux goalers. Que vous en pensez, ça, de ne pas avoir exercé l'option d'aucun de ces deux gardiens-là?
D'après moi, je pense que le CF va n'en re-signer qu'un seul des deux. Puis qu'il y a un transfert ou une signature qui se pointe à l'horizon en janvier. Sinon, je ne comprends pas trop la décision, honnêtement. Je pense que les deux ont fait un boulot honnête. Cette année, ça n'a pas été excellent, ça n'a pas été mauvais non plus. Puis je pense j'étais confortable à ce qu'ils retournent les deux en 2023.
Ouais.
Ouais, puis vas-y.
C'est ça que j'allais dire, c'est quand même une décision assez intéressante. Comme Thomas l'a dit, ils ont quand même bien fait. Les deux gardiens de but, mais c'est pas des gardiens de but élite, puis c'était pas des gardiens extraordinaires là, pour le CF Montréal. Bon, Pantemis, il fait partie de l'alignement du Canada, déjà ça c'est assez bien. Puis la question, là après ça, la question c'est est-ce qu'ils vont être capables de re-signer les deux? Je pense pas, mais au moins un des deux. Moi je pense que Pantemis va fort probablement revenir. Je sais pas. Je suis un peu moins confiant pour le cas de Sébastien Breza, mais ça
parce que ça, de toute façon, il n'était pas en prêt de Bologne, je ne me trompe pas.
Ouais, c'est possible, ouais. Je pense qu'il a raison. Mais c'est ça, en fait, Nick, tu rajouteras si tu veux après, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'exerce pas l'option qu'on ne peut pas re-signer, les re-signer après. Là, vous avez bien fait de le mentionner. C'est pas parce que c'est ça. C'est pas parce que l'option n'est pas exercée qu'ils peuvent pas signer de nouveaux contrats. Toi, Nick, les deux gardiens, il y a Jonathan Suroy aussi là, qui va peut-être faire le saut dans le grand club l'année prochaine. Comment tu vois ça, cette situation-là?
Ben, c'est ça que je me dis, moi, personnellement. D'après moi, Pantémis vont essayer de le re-signer. Mais Brezza, les fois qu'il a été gardien partant, ça n'a pas été fameux. Il a même fallu, tu sais, il y a eu l'histoire avec Joey Saputo qu'il a fallu qu'il descende dans le vestiaire puis engueuler quasiment. Ben, pas quasiment, en fait. Là, ça va, ils se sont bien engueulés, lui, puis Wilfred Nancy. Fait que... c'est ça. Je pense que... Pantémis, c'est lui probablement qui va revenir puis être gardien numéro 1, puis ça va être son poste à perdre. Mais je me demande si c'est pas Siroy qui va être gardien numéro 2. Lui, ou il y a l'autre gardien aussi, mais je pense plus que ça va être le numéro 3. Là. Mais ouais, d'après moi, Brezza, il reviendra pas. Ça va être la fin pas mal pour lui. Il a pas été terriblement mauvais, mais il a pas été assez bon pour prouver que c'était son poste à lui. Il a comme perdu son poste de gardien numéro 1 quand Wilfred Nancy voulait lui donner. Fait que je pense que ça va être Pantémis qui va revenir.
Ouais, je suis assez d'accord. À moins qu'on signe quelqu'un d'autre, là, qu'on acquiert un autre gardien de but, parce que je pense que même s'ils n'ont pas été extrêmement mauvais, les gardiens, c'est quand même la position la plus faible du côté qui a été la plus faible du côté du CF Montréal cette année, là, à mon avis. Là. Fait ça se pourrait, je crois, qu'on ait une acquisition de ce côté-là, mais sinon, Pantémis pourrait revenir. Les autres joueurs que l'option n'a pas été exercée, on a Carifa Yao, Thomas Giraldo et Bjorn Johnson. Quelle surprise! Sinon, Gabriel Corbeau, c'est la fin de son prêt, et Victor Wanyama qui devrait quitter également pour cette saison. Sinon, il y a des joueurs dont l'option a été prolongée, en fait, pour la 2023, notamment Kay Camara, Romel Kyoto, Ismaël Koné et Rida Zouir, pour ne nommer qu'eux. Kay Camara, je veux parler de lui, là, qui est dans le retour de l'année en MLS. Personnellement, je trouve que c'est une excellente signature de renouveler son option pour 2023. L'élément de profondeur qui a été le super sub en bon français. Quel retour de Kay Camara? Est-ce que vous êtes du même avec moi pour ça?
Ben écoute, c'était dans les priorités du club, d'après moi, qui a fait un super travail l'an passé de vétéran, de super sub, comme tu dis. Puis je pense qu'il peut juste aider l'équipe l'année prochaine. Kyoto, même chose, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Je pense pas qu'il fallait perdre. Du côté de Koné, je pense que c'est plus.
Ils devraient partir en janvier.
Ils vont partir en janvier, sûrement du côté de l'Europe. Donc, c'est plus pour le fun, mais c'est bon de savoir que si jamais un transfert n'arrive pas, il reste avec le club. Donc, c'est ça.
Ouais, ben, pour acheter aussi, tu sais, j'allais dire, qu'est-ce qui était assez fou, c'est que pour le cas de Kay Camara, c'est vraiment ses performances incroyables à son âge, je veux dire à 38 ans, d'être capable de jouer, d'être capable de prendre autant de temps de jeu, c'était assez extraordinaire. Puis aussi, je trouvais qu'il ramenait une fraîcheur que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu du côté de Montréal. C'est un gars qui avait beaucoup de combativité. Puis moi, le but qui m'a marqué, là, sa séquence à lui, c'est son fameux but à Toronto, là, face au Toronto FC, ça a été pour moi quasiment le but de la saison du côté du CF Montréal. C'était extraordinaire. Là. Puis, tu sais, j'allais dire, c'est les renouvellements, ben pas les renouvellements, mais comment on appelait ça, comment tu disais tout à l'heure, là, les options, ouais, ça. Les options de garder.
Ouais, l'option qui est activée, ouais.
L'option activée, bref. Ça a vraiment été des bonnes décisions, je crois, du côté du CF Montréal, notamment avec Kay Camara et Romel Kyoto. Kyoto, ça aurait été horrible qu'il accepte pas ça d'activer l'option. Puis même pour Camara, j'ai dit, c'est 100% mérité. Moi, je trouve ça dommage. Par contre, que Victor Wanyama parte, moi, je trouve que c'est... Ouais. Bon, écoute, ça a été difficile la fin de saison pour lui, notamment le dernier match en série éliminatoire face à New York, ça a été très difficile pour lui. Mais
il avait déjà annoncé, par contre, sur ton
poste. Mais c'est ça, il avait déjà annoncé, mais je trouvais tellement que d'avoir un milieu de terrain qui venait en provenance de Tottenham directement jusqu'à MLS, c'est rare. Puis je trouvais qu'il avait tellement apporté de bonnes choses du côté de Sèvres Montréal. Puis je trouve ça dommage qu'il parte là, vraiment. Là.
Corbeau, ce serait un que j'aimerais que CF Racing qui extende son prêt ou qui.
Ouais, c'est ça, exact.
Un transfert officiel. Je pense qu'il y a quand même une bonne saison et qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Ça a été une source de stabilité en défense. À chaque fois qu'il était là, il a connu un bon match. Il n'a pas tué le club. Il n'a pas aidé le club offensivement, mais il n'a pas tué le club défensivement non plus.
C'est surtout aussi que le CF jouait surtout cette saison, ils ont joué beaucoup à 5 défenseurs. Puis, t'en as trop, évidemment, puis il n'y a pas de temps à commencer, mais ça reste que tu as besoin de joueurs du moment que tu es blessé ou juste en match quand tu as besoin de remplaçants. Ben, je trouve que, comme tu dis, c'est une bonne option, là. Il jouait bien. Puis, les gars, je voulais finir ce que vous disiez sur Kai Kamara. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que oui, il amène le leadership, il a été clutch cette année, mais aussi, il amène un style d'attaquant qu'on n'a pas. Kyoto, qui est très robuste, oui, mais qui c'est vraiment plus le finisher de l'équipe, c'est celui qui va marquer les buts. Mais d'avoir un Kai Kamara, ça te permet aussi d'être très, très menaçant sur les jeux aériens. Il est très, très bon de la tête, il est très, très grand, fait qu'il en gagne beaucoup. Fait que ça diversifie ton arsenal parce que si un défenseur qui est grand et robuste de l'autre côté, il va beaucoup se coller à Kai Kamara, mais à ce moment-là, il y a assez des joueurs puis il laisse de la place pour les autres joueurs. Et sinon, ben lui-même, il est capable de le finir, soit, comme je dis, avec la tête, mais aussi les pieds, évidemment, qui est pas mauvais non plus, mais ça reste que il est capable de marquer de plusieurs façons, il est capable d'attirer des joueurs, de contrôler le jeu, contenir des défenseurs. Fait que c'est vraiment, ça fait partie de l'expérience qu'il amène, mais il est capable de prendre des joueurs avec lui pour laisser de la place aux autres aussi, pas juste pour lui-même.
Absolument. Puis aussi, là, pour risquer des autres joueurs, en fait, les joueurs qui ont déjà des contrats avec le CF Montréal, on a parlé de Jonathan Sirois tantôt, mais Broguillard, Rudy Camacho, Alistair Johnson, Cameron Miller, Torkelson, Mathieu Chouanière, Amdi Lapalainen, Miljevic, Samuel Piet, Joaquin Torres, Chinonzo Afor, Sunuzi Ibrahim et Mason Toy. Donc, tous ces gens-là, tout ce beau monde-là est déjà sous contrat. On voit déjà que c'est le milieu terrain, en fait, qui est problématique, là, qui manque certains aspects avec le départ de probablement Koné. Wanyama, c'est pas mal confirmé. Et Mihailovic, surtout, qu'il va falloir avoir du renfort durant la saison morte.
Voyez-vous des transferts européens? Voyez-vous des transferts européens arriver en janvier?
Oui, exactement. Autre chose à ajouter sur le CF avant qu'on passe à M. Ronaldo?
Moi, je pense qu'on va passer directement à M. Ronaldo parce que chaque va avoir beaucoup de choses à dire.
OK, allons-y. Passons directement à M. Ronaldo. Donc, M. Ronaldo a participé à une entrevue avec Talk TV, si je ne m'abuse, juste avant la Coupe du Monde, juste avant de partir au Qatar, où est-ce qu'il a parlé en long et en large de sa mauvaise relation, sa très mauvaise relation avec Manchester United, son club, et Eric Ten Hag, le coach de United. Également aussi, là, elle s'est dit se sentir trahi et pas respecté par les dirigeants de United. Nick, c'est toi qui finis tout le temps la conversation à date. Fait, vas-y en premier pour celle-là.
Hey, on en parlait un petit peu avant de commencer l'enregistrement. Puis je pense quelque chose qui ressort autant, c'est que Ronaldo fait jamais rien pour rien. Puis il fait jamais les choses. Je sais pas où je m'en allais avec ça, mais il fait toujours les choses en grand au final, c'est ça que je voulais dire. Ce qu'il a dit, du moins, il y a une partie sur deux qui est sortie, c'est vrai, ça semble vrai du moins, puis les parties qui parlent des performances du club, ben c'est dur de le contredire, parce que depuis quelques années, surtout depuis que Sir Alex est parti, le club a jamais été bien bien haut, sauf une saison avec José Mourinho qui ont fini deuxième. Mais le club semble stagner. Ils n'ont pas l'air de s'améliorer sur plusieurs aspects. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui arrivent. Les transferts qu'ils ont fait, même si c'était des gros, gros transferts, il n'y en a pas beaucoup qui ont bien marché. Il y en a beaucoup même qui ont floppé. On a juste à penser à Alex Sanchez, Paul Pogba. Il y en a plusieurs, ça n'a pas été facile. Fait que Est-ce qu'il y a raison? Oui. Sancho. Moi, jusqu'à maintenant. Mais est-ce qu'il y a raison d'avoir sorti comme ça puis aller directement dire « J'ai aucun respect pour mon manager. Les proprios, ils connaissent rien. Le club avance pas. Les jeunes, ils ont l'air de s'en foutre. » Écoute, c'est des grosses déclarations qui... Écoute, on peut pas dire qu'il a mis des gants blancs, puis on peut pas dire qu'il s'est caché. Il l'a fait. Mais je pense que c'est définitif. Là. Il ne rejouera pas avec Manchester United, puis il a décidé qu'il sortait par la grande porte. Fait que j'ai quand même du respect dans le sens qu'il a dit les choses comme elles sont. Puis il a eu le culot de le dire en entrevue, puis mettre sa face, puis vraiment le dire lui-même. Mais écoute, ça va faire jaser longtemps, puis il y a de la deuxième partie qui reste à sortir, comme j'ai dit. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui reste à suivre.
Honnêtement, moi, de mon côté, je suis d'accord sur le fait... Ouais, je suis d'accord sur le fait qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Manchester United, depuis 2013, c'est l'ombre de lui-même. Pour reprendre de mes expressions, c'est le cadavre de lui-même, ce club. C'est vrai que le club fait sur place les jeunes, ça pose pas tellement, même si Garnacho, je me trompe pas, c'est bien son
nom. Ouais, Garnacho.
Garnacho, l'Argentin, ouais.
Qui impressionne depuis quelques matchs. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sortent d'académie. Les transferts, comme tu as dit, ça flop. Mais c'est un manque de respect flagrant envers l'organisation, envers Eric Ten Hag. C'est juste Ronaldo qui ne peut pas accepter qu'il pue la tête d'affiche d'un grand club. United, c'est même plutôt un grand club d'un bon club d'Europe. Ronaldo qui est pas capable d'accepter que Manchester United peut désormais se passer de lui. Il a 38 ans, ça fait depuis le dernier mercato qui braille, qui veut s'en aller, il n'y a personne qui veut signer, puis il accepte pas ça. C'est un manque de respect flagrant, ça se fait juste pas. Donc, c'est encore une fois son moi Ronaldo qui fait son bébé gâté.
Ouais, mais c'est parce que je sais pas, Tom, si tu te rends compte, mais Cristiano Ronaldo, c'est pas n'importe qui. C'est ça le problème. Je pense que Ronaldo, avec le statut qu'il a, il peut se permettre de parler. Genre, pour moi, il y a juste deux joueurs à l'heure actuelle, des joueurs actifs qui peuvent parler contre leur équipe. C'est Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. À part en bas, c'est impossible. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Mais le problème avec Manchester United, c'est qu'il n'y a plus de vision dans cette formation-là. Ils l'ont manqué de respect. Puis aussi, qu'est-ce que Ronaldo avait mentionné, c'est que faut pas l'oublier, en début de saison, il y a eu vraiment des problèmes familiaux, notamment avec la perte de son fils qui venait de naître puis qui finalement est décédé peu de temps après la naissance. Puis il y a vraiment eu l'impression que Manchester United l'a laissé tomber. Puis, si on regarde sa relation avec Sir Alex Ferguson, quand il était manager de Manchester United, une des raisons pourquoi Cristiano Ronaldo avait autant de respect pour Manchester United, c'est que peu de temps après son arrivée, je pense que c'était 2 ans après son arrivée, le père de Cristiano Ronaldo, qui était alcoolique, finalement est décédé parce qu'il y avait une cirrhose du foie. Puis Alex Ferguson, elle était en mode dire à Cristiano, il a dit écoute, le football passe deuxième, puis va au chevet de ton père. Puis c'est ça qui a fait en sorte que Cristiano Ronaldo aujourd'hui considère Sir Alex Ferguson comme son père spirituel, parce qu'il a été là pour lui lors de ses moments difficiles. Puis là, en ce moment, il a l'impression que Manchester United n'a pas été là pour lui lors de moments difficiles, parce que j'allais dire, il n'y a rien de pire que la perte d'un enfant pour un parent. Là. Donc c'est peut-être pour ça qu'il s'est laissé emporter. Bon. C'est sûr que c'est pas la meilleure. C'est sûr que, d'après moi, c'est pas la meilleure façon de t'exprimer contre ton équipe que d'aller faire une entrevue à la télé nationale avec Piers Morgan. Là. C'est pas vraiment le choix. Mais en même temps, Manchester United ne va nulle part. C'est un club qui essaie de se rebâtir, mais qui sont basés sur des. Qui sont partis sur des mauvaises bases. Puis c'est un club aussi, il ne faut pas le rappeler, il y a beaucoup de favoritisme du côté de Manchester United. Puis ça, ils l'ont dit depuis plusieurs années, notamment de nombreux joueurs anglais qui passent en avant d'autres joueurs. Là, on peut passer à Harry Maguire. Bref, c'est une équipe qui a beaucoup d'interrogations. Puis je ne sais pas si vous avez vu ce que Zlatan Ibrahimovic a dit par rapport à Manchester United.
Ouais.
Zlatan Ibrahimovic a dit aussi que Manchester United n'était plus un grand club d'Europe. Là. C'est littéralement ça qu'il a dit. Là.
Je pense que Ibra a raison. Mais pour revenir à Ronaldo, la façon qu'il s'en est pris, selon moi, ça fait juste entacher sa légacy, sa réputation. En même temps, ça décourage un peu les grands clubs de signer. Je veux dire, c'est un joueur de 38 ans. Je ne veux pas comprendre qu'il est en forme.
37, je pense.
Il va avoir 38 ans en février.
Exact.
Je comprends que c'est un grand joueur, un des meilleurs de sa génération. Mais à 38 ans, il a plus d'impact qu'il avait il y a 5-10 ans. T'sais. Puis, tu sais, pour des grands clubs qui voudraient le prendre, puis peut-être pas le mettre, je serais pas régulièrement si on se partait, mais pas le mettre comme la grosse fenêtre du club, ça pourrait peut-être être décroché de la façon qu'il traite Manchester United parce qu'il ne joue pas. T'sais.
Ben, tu sais, je comprends tout à fait là-dedans, Tom, le point que tu apportes que. C'était pas de manière respectueuse qu'il a fait ça en dévoilant devant.
Puis, si tu me permets aussi, il y a eu d'autres incidents cette saison, notamment la fois qu'il est parti à 2-3 reprises avant le sifflet, après une rencontre de Manu. Ça se fait juste pas. C'est plein de petites affaires comme ça qui fait juste entacher sa réputation, selon moi.
Je suis d'accord que là-dessus, il y a eu des manques. Oh, ça bug. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on t'entend.
Okay.
Je suis d'accord que là-dessus, il y a eu des gros manques de respect de la part de Ronaldo puis d'exposer sa relation avec le club, le coach, devant la planète au complet en entrevue comme ça. C'est pas la meilleure façon de le faire. Là-dessus, on est tous d'accord, je pense. Mais, tu sais, tu as dit tantôt que Ronaldo n'est plus la tête d'affiche à United. On ne lui a pas laissé la chance d'être la tête d'affiche cette année. L'année passée, c'était 18 buts en Premier League, ce qui est excellent pour un joueur qui avait l'année passée 36 ans. Cette année, on ne lui a tout simplement pas donné de rythme, on ne lui a pas donné de chance. Ten Hag, j'ai l'impression, c'était déjà dans sa tête, c'était fait d'avance que Ronaldo ne serait pas une partie intégrante au niveau des titulaires dans cette équipe-là. Puis c'est Cristiano Ronaldo, là. Comme Dou l'a dit, ce n'est pas n'importe qui. Tu l'as dans ton club, tu as fait le show. On l'a essayé, je pense. On est allé voir d'un côté de l'autre pour essayer de le transférer, je pense, cet été. Peut-être pas assez parce qu'il n'est pas parti. Mais tu décides finalement de le garder, puis tu en fais une utilisation comme ça. Moi, je rejoins quand même Nick Pidou de ce côté-là. Mais bref, fait que là, Ronaldo, avec ça, il vient de signer son bye-bye, son ciao de United pour son billet de sortie pour United cet hiver. Vers où on s'enligne, là, il y avait Naples cet été qui avait peut-être des désirs, mais là, Naples va très bien. Je pense que ça ne sera pas eux la solution pour Ronaldo. Peut-être Sporting Portugal, mais là, est-ce qu'on a l'argent? Sinon, il y a la MLS. Il y a la MLS. Est-ce que c'est ça pour Ronaldo? D'où, vas-y.
Moi, je vais commencer, vas-y. Tom. Moi, récemment, j'ai regardé ça récemment, puis il y a une rumeur qui est sortie hier. Moi, je verrais l'option du Bayern de Munich pour Cristiano Ronaldo à la pointe. Bon, ouais, écoute, il y a Eric Choupo-Moting qui est excellent depuis le début de la saison du côté du Bayern de Munich. Mais d'avoir une option comme celle de Cristiano Ronaldo, je ne pense pas que le Bayern de Munich peut se permettre de dire non. J'allais dire, c'est une équipe qui...
Ça dépend du prix.
C'est ça dépend du prix. Mais là, avec les déclarations de M. Cercet, je pense pas qu'il va coûter si cher que ça, surtout qu'il va avoir 38 ans au mois de février. Là, déjà, j'allais dire, à 38 ans...
Ouais, c'est plus pour le salaire que pour le transfert.
C'est ça, mais tu sais, j'allais dire, Cristiano Ronaldo, c'est quand même un joueur de non seulement d'exception, mais c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps dans le monde du soccer.
Ah oh, oui.
Moi, je l'aime bien, l'option du Bayern de Munich. Je pense que ça pourrait amener quelque chose de plus à cette formation-là. On l'a vu. Si Eric Choupo-Moting est capable de dominer live à l'heure actuelle avec le Bayern de Munich, je vois pas comment Cristiano Ronaldo ne pourrait pas dominer du côté de Munich.
C'est certain. Nick, tu es d'accord avec ça? Bayern? Ou peut-être MLS?
Ouais, écoute, moi, je pense du côté du Bayern. Je suis d'accord avec tout que ça pourrait être une bonne option parce que, écoute, Choupo-Moting, comme tu dis, ça va bien, mais est-ce que ça va rester de même longtemps? C'est dur à dire. Le Bayern n'avait pas super bien commencé à Bundesliga. Là, ça s'est replacé un petit peu, mais ça reste qu'ils n'ont pas un très, très gros avantage au sommet de la Bundesliga. Ils ont juste 4 points sur Fribourg. Ils sont peut-être tentés justement d'amener un joueur qui peut avoir un impact immédiat, même si à date il n'y a pas le début de saison escompté. Là. Ça reste que Ronaldo, avec une équipe qui est prête à le servir, il va finir. C'est un finisseur hors pair. Puis je pense que ça peut être une pièce qui manque au Bayern parce qu'ils ont, surtout avec le départ de Lewandowski, ils ont essayé Mané un petit peu en attaque, mais je pense que Mané, ça reste qu'il est peut-être plus à l'aise sur les ailes. Fait que je pense que Ronaldo en pointe, ça peut venir régler un problème que tu as. Puis Choupo-Moting, justement, qui peut très, très bien faire le travail aussi. Tu peux donner des soirées de repos à Ronaldo sans problème. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'en Ligue des Champions, Ronaldo, ça a toujours été sa compétition. C'est lui qui ressortait le plus. Puis je vois mal comment il y aurait de la misère à s'installer dans une équipe comme le Bayern. Maintenant, est-ce que le Bayern a un gros intérêt? Ça reste à voir, mais moi, c'est le genre d'équipe que je vois. Puis comme tu as dit, sinon, la MLS, ça peut être une destination. Il va y avoir quelques équipes seulement qui vont pouvoir payer son salaire. Là. Attendez-vous pas à ce qu'il vienne au CF Montréal. Mais c'est ça. Je veux dire, ça pourrait être intéressant aussi, mais définitivement, je pense qu'il va essayer de s'en aller plus encore dans un grand championnat pour finir. Peut-être pas sa carrière, j'ai l'impression qu'il va finir de jouer à comme 45 ans, là, puis il va descendre un petit peu éventuellement, mais moi j'ai encore espoir que ce gars-là est capable de contribuer au plus haut niveau. Il est encore vraiment en forme, puis ça reste que. Je pense que c'est plus comment c'est présentement à Manchester United et le fait que pour une des premières fois dans sa carrière, il n'y a pas. Mais pas dans sa carrière qui a été jeune moins, mais comme depuis très longtemps, c'est une des seules équipes qui n'a pas une tactique qui est faite pour contribuer à Ronaldo. Ronaldo n'a pas le système de jeu qui est tout fait pour lui. Fait que je pense qu'il y a de la misère un petit peu à s'intégrer à ça, mais avec une équipe comme le Bayern, je pense qu'il serait capable. Ils l'ont tellement fait avec Lewandowski, puis ils ont d'autres joueurs qui sont capables de le faire aussi. Donc, ouais, je verrais bien avec le Bayern.
Ben, je pense que le Bayern pourrait être une option logique. Par contre, Piers Morgan, justement, amenait un point intéressant. Début de semaine, Ronaldo à Arsenal, ce serait le joueur qui leur manquerait pour vraiment consolider ce challenge qu'ils font au titre de la Premier League. Autant que j'aime pas Ronaldo, autant que je suis en accord, parce que oui, Gabriel Jesus fait un travail phénoménal cette saison, ben il manque un peu de finition de son côté. Je pense que Ronaldo pourrait aller l'épauler là-dessus. Il faudrait changer un peu la tactique, mais je pense que pour 6 mois, ce serait parfait. Puis après, je vais sûrement finir sa carrière en MLS. Et il s'en est pas caché qu'il voulait jouer là. Peut-être à l'Inter Miami, justement. Ou à d'autres clubs comme les Galaxy ou les LFC.
Écoute, Arsenal, man, je m'attendais pas à ce que tu me sortes ça, Tom, mais premièrement, il y a une question de salaire. Là. Est-ce que Arsenal a le moyen de payer le salaire de Ronaldo? Mais il y a aussi tout le côté distraction. Là. Genre, tu viens de voir ce qui s'est passé à United. Arsenal, ça va extrêmement bien en ce moment. Puis t'es comme, tu veux vraiment apporter une grosse tête comme ça qui va apporter certainement des distractions. Et je sais pas, là, du côté Arsenal, là, tu peux me dire ce que t'en penses, c'est ton club. C'est pas sûr là, que tu veux chambranler cette dynamique-là. Là.
Effectivement, il y a ce que ça va prendre, mais en même temps, parce que, honnêtement, en tant que fan d'Arsenal, je comprends toujours pas pourquoi. Je réalise à quel point que Arsenal est chanceux de ne pas être deuxième présentement avec City qui est vraiment sur les chapeaux de roue et qui vont sûrement les dépasser un jour, je ne sais pas quand.
Ils sont 5 points d'avance.
Oui, effectivement, mais il leur manque ce hit factor qui vont les pousser vers le sommet. Il leur manque un petit quelque chose. Je pense que Ronaldo, ça pourrait être ce petit quelque chose.
Mais là, si tu vas chercher Ronaldo, tu benches Jesus? C'est qui tu benches, non?
Ouais, tu peux pas mettre Gabriel Jesus sur le banc, tu peux même aucune chance que tu mettes Saka sur le banc. Mm-hmm. Puis tu vas mettre qui? Martinelli?
Non, tu mets pas Saka sur le banc.
Puis Ronaldo ne voudra pas commencer sur le banc. Hein.
Puis Ronaldo ne viendra pas à Arsenal pour serrer le banc. Là.
Fait
que ouais, c'est ça. Ouais. Tu... Mais Thomas, non, pour vrai, c'est une question qui est extrêmement pertinente de la part de Nick. Qui,
écoute.
Tu mets qui sur le banc en place pour Ronaldo, en fait?
Malheureusement, j'ai envie de dire.
C'est Martinelli.
Malheureusement. Mais...
Fait que tu renvoies Ronaldo à gauche.
Là, tu sors pas, il hésite, tu sors pas Saka. Hein.
Tu préfères jouer en pointe et juste à gauche, mais c'est vrai que Ronaldo a d'expérience à gauche, par contre, il n'y a plus sa rapidité en temps. Donc,
Moi, je vois mal comment tu peux le mettre à gauche. Ouais, non, c'est ça. Moi, je vois mal comment tu le mets à gauche parce qu'il n'y a plus la vitesse qu'il avait au moment où
tu jouais avec deux avant.
Plus aussi bon. Là. Ouais.
Ouais. Mais au moins, tu changes complètement la disposition d'Arsenal puis que tu commences à évoluer sur un 4-4-2.
Ouais, exact.
Ça pourrait peut-être fonctionner.
Est-ce que tu changes quelque chose qui marchait? Juste pour Ronaldo?
Non, je pense pas.
C'est ça l'affaire. Ça te ferait complètement une distraction, Ronaldo. Là. J'aime beaucoup ce que tu apportes, Tom, mais je pense pas que c'est tant réaliste que ça. Écoute, messieurs, Tom, il parlait des... Oui.
Ben, ça, c'était une idée que j'ai entendue cette semaine.
Merci de l'avoir apporté. Donc, messieurs, justement, on parlait des différentes places, des différents classements. En fait, on a parlé de celui de la Bundesliga avec le Bayern tantôt. On vient juste de parler de la Premier League. On va faire avec la pause, la grosse pause internationale de la Coupe du Monde qui arrive. On va faire un petit récapitulatif de le top 5 européens. Donc, commençant par la Premier League. Donc, on a parlé d'Arsenal, 5 points devant Manchester City. Ensuite, on a le surprenant Newcastle en troisième place, le tout nouveau riche parmi les clubs du monde entier, en fait, pas juste en Angleterre, mais beaucoup, beaucoup d'argent, les Saoudiens. Du côté de Newcastle, qui est à 30 points. Tottenham, 29. Manchester. Comment?
C'est le club le plus riche, si je ne me trompe pas, Newcastle.
Ouais, exact, c'est le club le plus riche. Manchester United, 26. Et Liverpool, qui est remonté à 22 points. Au sixième rang, bon, je n'aimerais pas tout le monde. Chelsea, huitième, là, quand même, c'est la débandade de ce côté-là. Qu'est-ce qui vous surprend le plus, messieurs? Un Chelsea, huitième, un Newcastle, troisième? On va commencer par d'où?
Ben là, pour moi, c'est Chelsea qui est huitième. Mais la raison pourquoi Chelsea est huitième, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est qu'il n'y a plus la même cohésion qu'ils avaient en 2021 quand ils ont remporté la Ligue des Champions. T'as plusieurs joueurs qui sont très forts individuellement, mais t'as pas cette fameuse cohésion d'équipe qui te permet de te rendre jusqu'au sommet. Puis il y a aussi, on l'a mentionné, le manque d'avancement aussi, ça fait mal à Chelsea. Oui, Aubameyang qui est arrivé juste avant le début de la saison, mais... je pense pas que Pierre-Emerick Aubameyang est la solution à long terme pour Chelsea. Chelsea a besoin d'un avant-centre, ça c'est clair. Là, il y a Raheem Sterling aussi qui c'est pas la meilleure solution sur les ailes pour la formation. Moi, je suis un peu déçu aussi de la défense de Chelsea. Moi, je m'attendais à mieux, surtout avec Khalidou Koulibaly, qui, vous savez à quel point je l'aime, Khalidou Koulibaly. Là. Je trouve que sa défenseur est incroyable. Mais tu sais, je pense... J'ai de la misère un peu avec son duo, avec Thiago Silva, qui est extrêmement âgé lui aussi,
J'ai l'impression que Koulibaly, il a de la misère un peu à s'adapter, à s'implanter dans la charnière centrale de Chelsea. Là.
C'est bien ça aussi.
C'est extrêmement difficile, mais pour moi, je pense que Chelsea, Chelsea, c'est extrêmement décevant, mais il n'y a pas juste Chelsea que c'est décevant. Là.
Liverpool aussi, c'est vrai.
Liverpool, là, en ce moment, à mon avis, ils sont chanceux d'être sixième, là, parce que il y a eu beaucoup de contre-performances depuis le début de la saison du côté de Liverpool. Ça s'explique par les nombreuses blessures. Aussi, peut-être le départ de Sadio Mané qui fait extrêmement mal, puis qui n'ont pas été capables de trouver un remplaçant pour Sadio Mané. Bon, il y a eu beaucoup de critiques envers Darwin Nunez, mais je trouve pas que Darwin Nunez est si mauvais que ça. Son seul problème, c'est que des fois, il est un petit peu individualiste. Des fois, il prend pas les bonnes décisions. Il décide de prendre une chance au lieu de peut-être faire la passe facile. Puis là, t'as Roberto Firmino qui est revenu à sa forme.
Ouais.
Ça, en passant à Roberto Firmino, je comprends pas pourquoi il n'a pas été sélectionné par l'équipe brésilienne, puis qu'ils ont décidé de sélectionner Richarlison, qui pour moi est un joueur inférieur ouais. Roberto Firmino, mais ça, c'est un autre débat.
J'suis d'accord.
Mais j'allais dire, pour moi, Chelsea, Liverpool, c'est vraiment deux déceptions en ce début de saison. Puis, écoute, pour le reste, c'est ça qu'on s'entendait un peu. Tu as Manchester United qui est cinquième, mais Manchester United, l'histoire récente entourant Cristiano Ronaldo, mais si on oublie Cristiano Ronaldo, ça c'est pas vraiment bon, là, qu'est-ce qui se passe du côté de Manchester United. Puis Tottenham qui continue à être un club du top 4, mais sans remporter rien. C'est bon, ça ressemble à ça. Puis bravo Arsenal, pour Tom, bravo.
Ben écoute, d'ailleurs, ma piquante surprise, c'est eux. Arsenal premier. J'aurais jamais cru voir ça, surtout cette année, avec Alan à City. Écoute, je suis content.
Mais ouais, ça,
ça démontre que Arteta a appris de Pep, du maître, puis ça marche. Puis ça, hâte de voir combien de temps que ça va durer. Sinon, Chelsea, ça a pas mal tout expliqué. Je pense que l'expérience Potter, ça prend plus de temps que prévu. Mais sinon, mes grosses surprises pour moi, c'est West Ham et Nottingham Forest aussi bas dans le classement.
En relégation, tu fais bien en parler. Ouais.
C'est
et les Wolves qui sont derniers aussi.
Ouais, mais les Wolves, je m'attendais un peu à ça. Elles n'avaient pas connu une super saison l'année passée. Elles avaient terminé dans le bas du classement aussi. Mais West Ham, honnêtement, on parle d'un club qui s'est qualifié Everton. Pour l'Europe l'année passée. Everton, ouais, mais Everton a failli se faire reléguer aussi l'année passée. Mais West Ham, vraiment, on parle d'un club qui s'est rendu en Europe, qui a des plusieurs joueurs de qualité. Donc, je suis même assez surpris de les voir là. Puis Nottingham Forest, avec leur mercato, je m'attendais pas à ce qu'ils s'approchent de l'Europe ou quelque chose de même, mais je m'attendais à ce qu'ils survivent à la relégation assez facilement. Ils sont à 13 points en 18e place. Assez décevant, je sais.
Ouais. Nick, as-tu autre chose à rajouter sur l'une de ces équipes?
Je vais aller vite. Là. Moi, c'est surtout Newcastle qui est troisième.
Ouais.
Oui, ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas fait des grosses signatures encore que tu dis wow, ok, là, c'est du sérieux. Fait que, oui, ils n'ont pas un mauvais club, mais de là à être troisième, je suis quand même assez surpris, surtout dans une ligue aussi compétitive que la Premier League. Il y a des équipes qui vont pas super bien dans le top 6. Si on inclut justement Chelsea, on en a parlé, Liverpool, que c'est plus difficile. Fait que, écoute, jusqu'à maintenant, ils méritent d'être là. Ils ont gagné leurs 5 derniers matchs, entre autres. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce club-là, justement, qu'elles vont se mettre à signer des joueurs aussi. Parce qu'éventuellement, avec l'argent qu'ils ont, c'est une question de temps avant qu'ils se mettent à signer des joueurs. Surtout s'ils commencent à avoir des bons résultats avant même de signer des gros joueurs. Mais c'est juste, ça va venir naturellement, j'ai l'impression.
Absolument. Avant qu'on passe au prochain championnat, je voulais juste faire un petit mot sur Liverpool aussi, d'où on a parlé. Là, mais Liverpool, d'où a raison, ils sont chanceux d'être en sixième position. Tu perds contre des équipes contre Nottingham Forest, contre Leeds United, mais tu gagnes contre Manchester City ou contre Tottenham. C'est l'inconstance pure du côté de Liverpool. Alors, c'est certain qu'il va falloir améliorer ça au retour de la pause internationale. Parlons maintenant de la Liga, le championnat espagnol. Écoutez, les gars, on a l'impression de retourner genre 5 ans en arrière parce que c'est encore Barcelone et Real Madrid qui trônent devant avec un très large écart entre eux et la troisième position. 37 points pour Barça, 35 pour Madrid. Oui, je comprends que le Barça n'est pas du tout la même équipe en compétition européenne en Ligue des champions. Mais quand même, en Liga, ça débrouille très bien. Et ils sont même devant Madrid pour le moment. Qui va finir au sommet de la Liga, messieurs, selon vous? On va commencer par d'où?
Moi, sincèrement, ça va vraiment dépendre de l'après-Coupe du Monde. Moi, j'ai hâte de voir comment le Real Madrid va revenir à la deuxième moitié de saison. Parce que en ce moment, à mon avis, c'est une meilleure équipe que celle du FC Barcelone. Le FC Barcelone, c'est pas une mauvaise équipe sur le papier, mais c'est une équipe qui a beaucoup de lacunes, surtout défensivement. Puis, on l'a vu en Ligue des Champions. Ouais, ils ont des blessés avec Arujo, aussi qui, qui manque en défense pour non seulement pour le FC Barcelone, mais aussi pour l'Uruguay. Ça va faire très mal.
Il revient à la Coupe du Monde.
Ah, il revient à la Coupe du Monde officiellement?
Oui.
Ok, c'est officiel.
Est-ce qu'il va jouer titulaire et être en 100%, c'est une autre affaire. Hein?
Ouais, ça, c'est une autre affaire. Mais...
Ouais, être en 100%, je ne sais pas. Mais...
Ok, non, c'est ça parce que. Non, mais parce que quand il s'était blessé, il y a un mois, il disait que c'était fini.
Ouais, que ça serait long. Hein.
Ouais. C'est fini la Coupe du Monde pour lui. Mais bref, tu sais, j'allais dire, pour moi, en tout cas, si j'ai une réponse à donner pour qui va terminer premier de la Liga. Moi, je vais aller avec le Real Madrid. Pour vrai, c'est le Real Madrid qui a le contrôle. Jadis, parce que là, en ce moment, il y a eu des contre-performances. Tu as eu notamment Karim Benzema qui joue pas parce que j'ai l'impression qu'il se préserve pour la Coupe du Monde. Puis c'est normal, surtout à presque 35 ans. C'est logique pour lui. Mais ouais, moi, si j'avais le choix, je pense. Ouais, ça, puis blessure aussi. Mais il n'y a pas juste la blessure. Je pense que Karim Benzema aurait pu jouer avec sa blessure. Mais il a préféré se reposer. Puis c'est normal aussi parce que c'est sa dernière Coupe du Monde. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a décidé de se préserver. Puis de dire qu'il y a une blessure, parce que c'est probablement vrai qu'il y a une blessure, mais tu sais, j'allais dire, le gars est ballon d'or, puis tu sais, il a besoin de cette Coupe du Monde-là. Là. Je pense que c'est la seule compétition qui lui manque là, vraiment dans sa carrière. Puis,
il a joué beaucoup l'année passée.
Aussi,
Benzema,
oui.
Il a joué extrêmement beaucoup.
Aussi. Puis, mais pour répondre à ta question, pour moi, c'est le Real Madrid.
Nick, t'es-tu d'accord ici?
100%, écoute, il y a Benzema justement qui n'a pas joué comme Dou a dit. Je pense que ça a fait très mal. Il y a quelques blessures aussi. Mais sur papier, le Real Madrid ont une meilleure équipe. Je pense que Barcelone, oui, ils ont une bonne équipe, mais le manque en défensive va finir par les rattraper. Ils ont bien joué, surtout dans les derniers matchs. Ils ont été très solides, mais j'ai l'impression qu'après la Coupe du Monde, ça va être plus difficile. La seule affaire qui est dure à prédire, puis Dou en a parlé, c'est que là, la Coupe du Monde arrive en plein milieu de la saison.
Mm-hmm.
Fait que tu sais pas, tu peux revenir après la Coupe du Monde, puis t'as 5 blessés, tu sais.
Fait que puis, ou t'as tout simplement perdu le rythme.
Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi. Il y a des joueurs que ça peut aller vraiment moins bien. Il y a des joueurs qui vont jouer beaucoup aussi pendant la compétition. Fait que au-delà des blessures, est-ce qu'il y en a qui vont revenir, qui vont être fatigués physiquement, mentalement de la compétition, surtout les pays qui vont se rendre plus loin. Écoute, ça va être intéressant à voir, mais en prenant en compte que les deux équipes reviennent sensiblement au même niveau qui était niveau blessure, tout ça, je pense que Real Madrid ont trop une bonne équipe pour finir en arrière de Barça.
Tom?
Moi, je dirais Barça.
Ok.
Oui, il y a des carences défensives, mais je pense qu'avec le retour des blessés, ça va aider. Du côté de Madrid, moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est une équipe vieillissante. Modric va sûrement jouer au minimum 4-5 matchs avec la Croatie. Benzema peut se rendre loin avec la France. Courtois peut également se rendre loin avec la Belgique. La défense aussi. Donc, est-ce qu'ils vont avoir cette gaz rendue mars, avril, avec les champions, avec tout? Je sais pas, honnêtement. Puis je pense que c'est ça qui pourrait aider le Barça. Le fait qu'ils soient juste en Europa, ça pourrait peut-être leur donner un petit boost, entre guillemets, pour la Liga. Mais écoute, ça va être une course serrée jusqu'à la fin. Mais je pense que le Barça va se rendre au top. En plus, il joue super bien en Liga. Honnêtement, c'est tout le contraire de la Champions League, par contre. Mais,
l'affaire aussi, c'est que Barça, il risque de se concentrer plus sur la Liga que la Europa League. Là. Ils vont pas tant se concentrer là-dessus, alors que le Real vont se concentrer sur la Champions League. J'avoue que ça, c'est un point peut-être qui peut jouer en faveur du Barça.
Mais j'ai une question pour vous concernant le Real. Ça n'a pas rapport, mais Eden Hazard, pensez-vous qu'il quitte en janvier?
Non.
Je pense que la Coupe du Monde peut vraiment le relancer. Mais vas-y, dis.
Mais moi, j'allais dire, j'allais dire la même affaire que toi. Je pense que la Coupe du Monde va être un point déterminant pour la carrière d'Eden Hazard. Si on voit Eden Hazard dominer avec l'équipe de la Belgique, surtout que c'est encore le capitaine à l'heure actuelle de cette sélection-là. Donc, si Eden Hazard est capable d'avoir une bonne Coupe du Monde, j'ai vraiment l'impression que ça pourrait l'aider Bon, d'après moi, il sera plus jamais titulaire du côté de Madrid, mais au moins, ça pourra l'aider à je dirais pas quitter en janvier, mais il va quitter probablement le mercato de
cet été.
Ouais, fait que ça c'est intéressant. Mais juste pour revenir rapidement sur Real Madrid, oui, on parle de la fatigue puis d'une équipe qui est un peu plus vieillissante. Mais on dit ça depuis plusieurs années déjà du côté de Madrid. Enfin, je pense plus que c'est tant un facteur que ça. J'allais dire, t'as une nouvelle équipe. T'as des recrues depuis plusieurs années qui font une différence. C'est-à-dire, t'as Tchouaméni puis Camavinga qui est le duo français au milieu de terrain. Que ça va vraiment, ça fait du bien à cette formation de Madrid. T'as Valverde qui est absolument extraordinaire depuis le début de la saison du côté de Madrid. Puis t'as le duo brésilien à l'avant, là, Rodrigo puis Vinicius qui, eux, leur Coupe du Monde risque d'être intéressant. Mais je pense pas que ça va être si peu que ça au niveau de l'âge côté du Real Madrid. Puis, à ce que je sache, le Real Madrid a dominé l'FC Barcelone lors du premier Clasico. Donc, je verrais pas comment le Real Madrid pourrait ne pas dominer le Barça au retour.
Puis, écoute, on dit que le Real Madrid est vieillissant, c'est vrai, mais tu fais bien de le mentionner parce que quand on dit ça, on pense à des joueurs comme Benzema, Kroos, on pense à Modric. Mais quand tu regardes autour d'eux présentement dans le 11 partant ou les joueurs qui sont plus souvent dans le 11 partant, c'est pas des joueurs vieux, là, à part peut-être
Alaba. Valverde est excellent puis il est jeune.
C'est ça.
Valverde est incroyable.
Vieux, mais t'as Mendy, tu sais, qui est pas vieux. Mm-hmm. En défense centrale, t'as Militao qui est pas vieux. Même si Doux, il serait pas là.
Vinicius, Rodrigo.
Rudiger, il est pas super vieux non plus. Fait que moi, je pense que c'est plus une idée qu'on se fait à cause qu'ils ont ils ont genre 3-4 joueurs très, très vieux, mais le reste de l'équipe n'est pas si vieille que ça, puis ils sont pas aussi jeunes que le Barça, mais ils ont des joueurs qui rentrent des jeunes, puis je veux dire, Perez va aller chercher d'autres joueurs aussi, je suis convaincu, jeunes, pour venir prendre la relève.
Puis t'as des joueurs qui sont quand même vieux du côté du FC Barcelone, je m'excuse, mais j'ai dit, le joueur le plus vieux titulaire de. Oui, OK, il y a Modric, mais Modric, pour moi, c'est un surhomme. Là. Je veux dire, c'est pas normal qu'il est encore capable de jouer 110 minutes et que tu as l'impression qu'il n'est pas fatigué. Mais tu sais, j'allais dire, t'as Sergio Busquets du côté du FC Barcelone qui est encore titulaire et que le gars a plus de jambes depuis 4 ans. Là. Donc. Non, mais j'allais dire, c'est encore pire. J'allais dire, Toni Kroos n'est pas un marchand de vitesse et il est plus rapide que lui. Là. J'allais dire, c'est pas normal. Là.
Ce qui a en faveur de Busquets, sa vision du jeu, là, on en a parlé. Je sais plus où est-ce qu'on en a parlé, mais.
Sa récupération de ballon aussi. Là.
Ouais. Mais même.
C'est incroyable.
Mais
la récupération de ballon, il y a de la misère, je trouve.
Il y a de la misère, c'est ça que j'ai dit.
Puis ce qui joue à sa faveur,
il y en a moins qu'avant.
Mais tu sais, la plupart des équipes en Liga contre qui le Barça joue, c'est que le Barça a le ballon 70% du temps. Fait qu'il n'y a pas besoin de courir tant que ça. Mais quand tu arrives contre une équipe comme Madrid ou en Ligue des Champions, contre des équipes de plus grand talent, ben là, t'as moins le ballon, t'as plus besoin de courir. Défensivement, un contre un, si tu vas, t'essaies de passer à travers lui, tu seras pas capable. Mais si tu le fais courir, Busquets, il suit plus, là, il est plus capable. T'sais, un petit peu comme on a vu justement avec Piqué, il suit plus non plus, qu'il a même décidé de prendre sa retraite. Je pense que Busquets, l'heure s'en vient, là, qu'il va falloir qu'il change ça parce que.
Ouais, ça de rien, c'est long.
Ouais, je pense que oui. Ben, vas-y, je t'ai un peu volé ton.
Non, non, il n'y a pas de problème. Écoute, on peut passer à d'autres ligues. Là, fait que c'est quand même
intéressant. C'est ça. En terminant, Tom, tantôt, t'as dit quelque chose là, comme quoi Modric allait jouer au moins 4-5 matchs en Coupe du Monde. Je suis pas convaincu de ça, personnellement. Je suis pas convaincu de ça.
Ben, au moins 4 matchs, ça devrait passer.
Je suis pas convaincu de ça, moi.
Écoute,
t'as le Maroc, t'as le Canada, man. Pas convaincu de ça,
pantoute. Ben, écoute, tu peux fier à ton article.
Mais ouais. OK. Mais oui.
Très fort.
Comment?
Très fort.
Si je me fie à ton article, à quoi tu passes?
Oui, ben, effectivement, mais moi, c'est des prédictions. Là. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer. Mais, le groupe F, là, quand j'ai écrit mon article, j'étais extrêmement pas certain. Même dans ma prédiction, là, pour moi, c'est complètement ouvert, même si j'ai dit que la Croatie finirait deuxième. Là. Okay. Le Maroc peut très bien accroché à la deuxième place et même le Canada. Fait que, bref, on parlera de ça aux Premières Loges. Allez écouter le podcast d'aux Premières Loges.
Ah oui.
Quand il y a déjà des épisodes d'enregistrer. Bref, moi, rapidement, le Madrid-Barcelone, je vais pas bet contre Madrid, mais avec les enjeux qu'on a nommés pour Barcelone, que ils sont plus en Ligue des Champions, qu'ils vont beaucoup plus se concentrer sur la Liga, ça va être très intéressant de surveiller ça. Maintenant, en Allemagne, la Bundesliga, on en a parlé du Bayern tantôt, qui n'a pas eu un bon début de saison, comme on l'avait dit. Là, il est seulement à 4 points de Fribourg, qui est deuxième, comme Nick disait tantôt. On a Leipzig 28, Francfort 27, Berlin 27, et on a Dortmund qui est sixième à 25 points. Donc, pour ma part, je pense que le Bayern va finir par décoller. Là, c'est le Bayern Munich quand même, puis rester devant pour le reste de la saison. Mais quand même, ça a été surprenant. On a vu l'Union Berlin là, qui était devant un bon bout de temps. Et puis Dortmund, sixième place, c'est assez inquiétant, mais je pense aussi qu'ils vont finir par se replacer et revenir dans les prétendants pour une participation à la Ligue des Champions de l'année prochaine. Nick, d'accord avec ça? Bayern premier, puis on est correct?
Ben écoute, c'est très, très difficile de parier contre le Bayern en Bundesliga. Uh-huh. Ils sont tellement dominants depuis plusieurs années. Comme tu dis, moi, en fait, c'est pas tant ça qui m'inquiète, parce que je suis sûr qu'ils vont finir premier. C'est plus Dortmund qui... Quand tu regardes l'équipe, ouais. Là, en plus, on s'entend cette année, ils ont perdu Haaland, puis ils ont essayé de le remplacer avec certains joueurs. Il y a Sébastien Haller qui avait signé, mais là, il y a eu le cancer.
Ouais.
Sinon, ils ont signé notamment Adeyemi, mais il n'y a personne vraiment qui a réussi à combler ce trou-là. Puis malgré, il y a certains bons joueurs. On sait, Marco Reus qui, malgré tout son talent, il est souvent blessé. T'as Bellingham qui, je veux dire, il peut pas tout faire seul non plus. J'espère pour eux que ça va se replacer, mais on dirait, je regarde l'équipe présentement, puis j'ai un petit peu l'impression que ça part dans le mauvais sens. On va espérer que non, mais comme ça semble être difficile. Je sais pas si ça va prendre comme une espèce de reset dans cette équipe-là pour replacer certaines bases, peut-être qu'on pensait qu'ils étaient plus solides qu'ils étaient, mais qu'ils sont pas assez, du moins pour le moment.
Puis on se basait, comme tu l'as dit, on se basait beaucoup sur Haller, j'ai l'impression. Puis là, son cancer, ça l'aide vraiment pas. D'où Tom, rapidement, là, sur Dortmund et Bayern? Ou
ben écoute, Bayern va gagner encore une fois, là, je pense. Sans faire quoi, tu t'affiches, de quoi de même?
Ouais, je pense que c'est 10, ouais.
Écoute, c'est incroyable. Puis Dortmund, ben, ils ont une équipe pour se replacer. C'est vrai que... à l'air, ça l'aide pas. Mais en fait, ça a beaucoup nuit. Puis, bien sûr, à ADN aussi. Mais, ils peuvent très bien. On est effectif pour se replacer. Je pense que la pause vient au moment parfait. Puis, ils ont besoin de reset. Mm-hmm.
Ouais, puis écoute,
le problème, c'est que c'est pas une pause. C'est juste Mais, j'allais juste dire, c'est pas une pause parce que la plupart de tes joueurs vont jouer quand même des grosses minutes. Fait que, comme. C'est une pause, mais ça ne permet pas de se vraiment se...
Ben, à part Bellingham, qui est-ce qui peut se rendre loin, vraiment?
Ben écoute, malheureusement pour Marco Reus, il va pas participer à la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Ça, c'est tragique. Je pense que c'est un des joueurs les plus malchanceux de l'histoire du soccer. Mm. Là. Genre, c'est pas compliqué. Là. Le gars a raté je ne sais pas combien de compétitions avec l'Allemagne. Là. Ça en est triste. Il n'y aurait pas de champion du monde, en fait, Marco Reus, si ce n'était pas d'une de ses plus grosses blessures qu'il y avait eu justement à la Coupe du Monde 2014. Je dis, c'est malchanceux, mais je pense que ça va aider en fait cette pause pour cette pause entre guillemets. Là,
Il y a Soulé et Moukoko aussi avec l'Allemagne.
Mm-hmm. Ah oui, c'est vrai.
Mm-hmm. C'est jeune joueur à la Coupe du Monde, je me trompe pas.
Ouais, il y a Moukoko, ouais.
Ouais, c'est ça.
Vas-y, Edou.
Ben, j'allais dire, moi, je suis d'accord avec vous. Là, je pense que le Bayern, c'est le Bayern qui doit gagner cette compétition-là. Si le Bayern ne gagne pas, ça va être une déception pour la formation allemande. Là.
Certainement. Ça serait un 11e titre d'affilée. Je suis allé voir tantôt. Là, donc, encore plus impressionnant. Maintenant, Serie A. Serie A, je trouve ça très intéressant cette année, honnêtement. Là, il y a Naples là, qui, maintenant, c'est plus une surprise parce qu'on les voit qui sont très forts. Mais au début de la saison, je ne m'attendais pas à ce que ça soit Naples qui domine le classement de Serie A avec 8 points d'avance sur l'AC Milan. C'est impressionnant. Donc, AC Milan deuxième. La Juventus qui a très mal démarré, mais est rendue troisième maintenant à seulement 2 points de Milan. Lazio Rome quatrième, 30 points. L'Inter, je pense que un peu comme Dortmund avec Haller. Ben, on n'a pas eu Lukaku cette année du côté de l'Inter Milan. Lukaku, qui, dans son dernier passage avec l'Inter Milan, avait été excellent. Donc ça, ça ne l'aide pas du côté de l'Inter, qui est cinquième. Atalanta, 6. La Roma de José Mourinho, il faudrait s'inquiéter aussi. On est à 27 points, on est septième. Nick, parle-moi de l'équipe que tu veux ben, là-dedans, en fait.
Ben, écoute, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu regardes jusqu'à Roma, à peu près le septième, tu sais, les autres équipes ne sont pas super loin, mais jusqu'à Roma, on s'entend qu'ils sont juste à 3 points d'être quatrième aussi. Là. Ils
oui,
sont pas loin, puis ils bon sont point. Encore dans la course. À part Naples, que pour le moment, sont vraiment, vraiment impressionnants. Moi, c'est une des équipes, je trouve, qui est la plus impressionnante jusqu'à maintenant. Des plus belles surprises, je pense, qu'on voit en Europe. Mais écoute, les autres équipes, c'est tellement ouvert, puis c'est tellement collé que ça peut vraiment partir de n'importe quel sens. Puis c'est le sprint de la deuxième moitié, je pense, qui va jouer, qui va faire fi de tout. Parce que oui, quand tu regardes le classement, surtout pour la Roma, tu te dis que les sont septième, ils n'ont même pas ni de Europa League ni de Conference League. Fait que tu dis, ça peut être inquiétant, mais en même temps, ils sont à 2-3 victoires d'affilée, peut-être de se ramasser comme 4e, 3e, peut-être même, indépendamment des autres. Fait que c'est très, très serré. Je pense que ça va être un des championnats. C'est plate parce que c'est pas nécessairement pour la première place, mais pour le reste des classements, pour les championnats européens, ça va être très impressionnant à suivre. Donc, c'est ça. Moi, je suis confiant que la Roma va remonter. Quand je regarde les équipes qui sont là présentement, celle que je pense qui va tomber septième à la fin de la saison, ça va être Atalanta. Quand tu regardes la formation puis les joueurs qu'ils ont, c'est l'équipe qui, j'ai l'impression, va peut-être ralentir un peu dans la deuxième moitié si j'avais de l'argent à mettre là-dessus. Mais c'est ça. Ouais. Fait que c'est un très, très beau... une très, très belle course qu'il y a là. Puis je pense que ça va être possiblement le plus beau championnat à suivre parce que c'est une course à beaucoup d'équipes.
Avec la PA qui est toujours intéressant aussi. Là.
Ouais,
effectivement.
Mm-hmm. D'où?
Moi, écoute-moi, faut absolument que je parle de Naples. Naples, c'est... Pour vrai, à mon avis, c'est l'équipe la plus impressionnante en Europe depuis le début de la saison. J'ai dit, qui aurait cru que Naples domine autant alors qu'ils ont eu tellement de joueurs importants qui sont partis juste avant le début de la saison? T'as eu Kalidou Koulibaly qui est parti, t'as Lorenzo Insigne qui est parti, t'as Dries Mertens qui est parti également, puis t'as Fabian Ruiz aussi qui est parti. Ouais. T'as quand même 4 joueurs qui ont été importants pour Napoli au cours des dernières années qui sont partis, puis sont meilleurs que lors des dernières années. C'est absolument incroyable de voir cette formation-là fonctionner. Eux, je crois qu'ils sont encore invaincus en Serie A, si je ne me trompe pas. Naples, c'est
13 victoires, 2 nuls. C'est excellent.
C'est extraordinaire. Puis tu regardes la formation en général. Moi, il y a le défenseur sud-coréen, là, Kim Man-jae. Kim Man-jae,
c'est ça. Mei-jae.
Kim Man-jae, bref.
Je ne sais pas exactement la prononciation, mais voilà.
Il est tellement impressionnant. Là. Il fait complètement oublier le départ de Koulibaly. Là, j'ai dit. Moi, je me rappellerai toujours le fameux match le fameux match de Ligue des Champions où que Napoli a juste complètement pulvérisé Liverpool. Il y avait été un des joueurs qui m'a le plus impressionné. Puis, t'as plusieurs joueurs aussi qui dominent, évidemment. T'as Zielinski, ou comment ça peut...
Zielinski, Piotr Zielinski, Raspadori.
Ouais, également...
T'as Simon aussi en avant.
Simon
qui
vient de Georgie, je ne sais plus comment il s'appelle.
Kvaratskhelia. Ouais. Quel joueur. Kvaratskhelia, c'est son nom. Exact. Ouais. Puis c'est Min-jae, c'est la bonne prononciation pour le défenseur coréen, si je ne m'abuse. Mais ouais, tu as tout à fait raison. Naples, c'est sensationnel ce qu'on voit. On ne s'entendait pas à ça. Puis, on voit très bien qu'on n'avait pas besoin d'un Ronaldo, finalement, du côté de Naples. Il y a la Juventus, moi, qui m'intrigue aussi. Là, je trouve que seulement 7 buts concédés jusqu'à maintenant, c'est la meilleure défense de Serie A. C'est assez surprenant de ce côté-là pour la Juventus. Je ne m'attendais pas à ça, surtout qu'ils ont très mal débuté. Tom, je te laisse conclure sur la Serie A.
Ouais, ben écoute, comme tu as dit, Napoli, la meilleure équipe d'Europe. Juventus, ça semble se replacer depuis les derniers matchs. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'ils vont être capables de détrôner Napoli? Je ne pense pas. parce qu'ils sont vraiment bien partis. Mais écoute, ce championnat va être très fun à suivre, comme que vous avez tous dit, à cause de la course. Puis également d'autres équipes pour qu'on ne parle pas beaucoup, mais que c'est extrêmement serré. Je dirais même jusqu'à Udinese, Torino, là, ils sont dans la course aussi pour l'Europe.
Tout à fait. Puis Bologne va bien quand même, 11e. 19 points, ça avait mal commencé, mais probablement que Saputo, l'équipe de Saputo va rester en Serie A jusqu'à date, c'est ce que ça semble montrer. On est prêt maintenant à passer au dernier championnat, celui de le championnat français, la Ligue 1. Sans surprise, le Paris Saint-Germain est premier. Et puis là, honnêtement, là, le Paris Saint-Germain n'a pas d'affaire à ne pas être premier. C'est déjà arrivé par le passé que dans les dernières années qu'ils n'ont pas gagné la Ligue 1. Et c'était une grosse déception avec l'effectif qu'ils ont. Mais là, on a 5 points d'avance sur Lens. Très surprenant. Lens également, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit deuxième encore à ce stade-ci de la compétition. Rennes, quatrième. Marseille, Rennes 3e, Marseille 4e, Lorient 5e, donc on a des surprises.
Lorient, grosse surprise.
Lorient, très grosse surprise. Ça va moins bien par contre dans les 5 derniers matchs. Lorient, là, c'est 3 nuls, 2 défaites dans les 5 derniers matchs. Lille, seulement 7e. Lyon, seulement 8e. Et il y a des grosses surprises dans le championnat français. Vas-y, Tom, tu semblais bien parti.
Ben, comme qu'on a dit, Lens, Lorient, je ne voyais pas là au départ. Lens, je voyais plus se battre pour l'Europe. Au deuxième rang présentement. Grosse déception du côté de Lille et Lyon. Également Nice, comme tu l'as dit. Mais le championnat français, c'est, à part PSG, c'est très cyclique un peu. Donc je pense qu'on a plusieurs équipes qui sont dans la fin d'un cycle. En fait, dans le début d'un autre cycle, en tout cas, je me perds. Là. Mais ça, vous comprenez. C'est Nantes, je suis un peu déçu honnêtement, qui sont près de la relégation, eux qui sont en Europe, en fait, en Europa. Donc, assez surpris des voir là. Mais sinon, championnat français, je vais vous avouer que c'est pas mal celui que je suis le moins, puisqu'il n'y a pas vraiment de course.
C'est vrai que c'est souvent assez plate avec le PSG qui finit loin devant, mais là, seulement 5 points, c'est moins que ce que je m'attendais.
Ouais, c'est ça, c'est moins grande domination, mais quand même, ça reste 41 points sur 45.
Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Nick, qu'est-ce que t'en penses, championnat français, toi, la plus grosse surprise, Lens, Lorient?
Écoute, je pense que je dirais Lorient, parce que Lens, malgré tout, ils ont quand même une assez bonne équipe, mais Lorient, c'est vraiment... ça sort un petit peu du champ gauche, malgré qu'ils ne sont pas aussi hauts que Lens. Mais je dirais que Lorient, c'est l'équipe que d'habitude, tu t'attends plus à ce qu'il soit milieu de classement, bas de classement. Mais là, qu'il soit en haut des équipes comme Monaco, Lille, Lyon, Nice, c'est vraiment, vraiment surprenant. Puis je pense que, parce que comme c'est là, je vois pas comment ils pourraient dropper tant que ça. Ils jouent bien, je pense, de ce que j'ai entendu de l'équipe. Mais Lens, deuxième, c'est surtout qu'ils sont en haut de Marseille. Tu sais, il y a Rennes aussi qui est là, mais Marseille, qui sont en bas d'eux, c'est assez surprenant. Est-ce qu'ils vont être capables de tenir ça? On va voir, mais ils ont quand même 5 points sur Rennes, qui est troisième, et 6 points sur Marseille, qui est quatrième. Donc, je pense qu'il va être le plus intéressant de voir du côté de la France. Comme évidemment, la course pour le premier n'est jamais très, très angoissante pour le PSG. Ça va plus être de voir est-ce que les équipes qui créent des surprises présentement vont être capables de rester devant des équipes, justement comme OM, il y a Lyon, OL, tout ça qui s'en viennent, qui sont pas loin, puis ça prendrait pas grand-chose pour changer complètement le classement.
Ben, tu sais, Lorient, par exemple, on finit l'année passée au 16e rang. Donc, ça va être grosse surprise. On presque déjà battu le record de points cette année, comparativement à l'année passée. Donc, c'est quand même assez impressionnant de ce côté-là.
Vraiment. D'où?
Ben écoute, c'est parce que le problème, c'est que c'est ça, c'est que tu as le PSG, puis après ça, le reste. Parce qu'en fait, la Ligue 1 est tellement intéressante, je trouve, parce qu'il y a tellement une belle parité entre toutes les équipes, sauf le Paris Saint-Germain qui est au sommet de loin. Puis t'as vraiment l'impression que Paris Saint-Germain, ça a l'air facile cette saison là, pour la formation. Bon, écoute, le défi avec Paris Saint-Germain, évidemment, c'était... Bon, écoute,
tout le monde va bien du côté de Paris, en fait.
Oui, c'est ça. Ben écoute, c'est normal, surtout avec... j'ai l'impression qu'ils se préparaient aussi avec... surtout les Messi ou les Neymar avaient beaucoup de choses à se faire pardonner après leur saison un peu plus difficile l'an dernier. Puis écoute, la question pour le Paris Saint-Germain, c'est vraiment comment que les gros joueurs vont revenir après la Coupe du Monde. Parce que comme on l'avait mentionné au dernier épisode, c'est une Coupe du Monde qui est très décisive pour Messi et pour Neymar. Là, je veux dire, ça leur donnait la Coupe du Monde à ces deux-là. Puis ils ont beaucoup de choses à prouver. T'es, Lionel Messi, avec une Coupe du Monde, va peut-être être numéro un dans la liste des plus grands joueurs de soccer de tous les temps. Puis Neymar, si Neymar est capable de transporter l'équipe du Brésil jusqu'à plus qu'une finale, même jusqu'à une Coupe du Monde, il viendrait mettre son nom parmi les plus grands joueurs brésiliens de l'histoire, là, avec des Pelé, avec des Ronaldo, Ronaldinho. Bref, ça va être vraiment intéressant de voir comment cette équipe de France. Ben, pas, pardon, j'allais dire, comment le Paris Saint-Germain. Comment le Paris Saint-Germain.
Ouais, Paris, vas-y.
Ça va être quoi le visage du Paris Saint-Germain en revenant de la Coupe du Monde? C'est là que ça va être intéressant. Parce que leur problème n'est pas en Ligue 1, leur problème c'est vraiment en Ligue des Champions. Ils ne sont pas capables d'enchaîner les bonnes performances avec des champions. Même l'an dernier, alors qu'ils ont dominé le Real Madrid pendant un match et demi, puis qu'en l'espace de 15 minutes, ben, ils ont concédé 3 buts, puis à cause de ça, ben, ils ont été éliminés dès les 8e de finale. C'est vraiment ça la question qui pour Paris Saint-Germain, c'est leur performance après la deuxième moitié de saison, surtout en Ligue des Champions. Puis écoute, des performances avec des champions, c'est ça qui est la question pour Paris Saint-Germain depuis presque 10 ans. Ben, en fait, depuis 10 ans maintenant. Là.
Puis ce qui va être important pour le PSG aussi, c'est en revenant, ils ont plusieurs joueurs qui vont à la Coupe du Monde, mais il y a aussi quand même plusieurs joueurs importants qui ne vont pas à la Coupe du Monde. Quand tu penses à Ramos, qui n'a pas été sélectionné.
Renato Sanchez.
Non, j'ai pas entendu ce qui est.
Renato Sanchez.
Ouais. Renato Sanchez. Il y a évidemment Donnarumma et Verratti qui ne vont pas.
Il y a Fabian Ruiz aussi qui n'a pas été sélectionné, je pense.
Non, c'est ça.
T'as Kimpembe qui peut aussi.
Blessé, grosse perte pour l'équipe de France. Ouais.
Fait que t'as plusieurs joueurs importants qui ne vont pas à la Coupe du Monde, qui vont avoir du temps pour récupérer soit de blessures ou de physiquement de se remettre à niveau. D'entamer vraiment du très bon pied la deuxième moitié de saison. Je pense que c'est un peu un aspect que soit ça va être très, très important ou soit ça n'aura aucune importance. Mais je pense pas qu'il va y avoir d'entre-deux. T'sais, je pense qu'on va vraiment avoir soit une très grosse cassure avec les joueurs qui n'ont pas été, qui sont plus dans le rythme, ou justement, c'est des joueurs qui vont être capables d'avoir récupéré, qui vont pouvoir créer des surprises à certains endroits ou juste aider l'équipe à continuer. T'sais, le PSG, on en parle, c'est pas nécessairement la Ligue 1 qui va être importante, c'est la Ligue des Champions, parce que tu dois absolument te rendre loin. Là. On a encore Mbappé, il y a pas si longtemps que ça qu'on apprenait que finalement il était pas très content avec son contrat, que là, il veut partir. Mm-hmm. Écoutez, on va voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. C'est à savoir d'un Romain Savon qui finit plus, mais ils doivent gagner. Là. C'est maintenant. Là. Ils ont des joueurs aussi qui vieillissent. Il y a des rumeurs que Messi va partir, finalement, qu'il va retourner peut-être au Barcelone. Il va falloir que ce soit cette année.
Ah, absolument. Le PSG, c'est bien beau la Ligue 1, mais comme tu as dit, c'est la Ligue des champions là, qu'on surveille le plus de leur côté. Moi, avant qu'on termine, il y a vraiment une équipe que je voulais parler en Ligue 1, c'est l'Olympique Lyonnais, qui est non seulement 8e, ce qui est très décevant, mais ils sont aussi à 7 points pardon, de Lorient à 9 points de Marseille en 4e place. C'est dramatique pour Lyon et l'Olympique Lyonnais est le club fétiche de Antoine Peugeot-Charros qu'on salue. Donc, voilà, Lyon, ça va être à surveiller. Maintenant, très rapidement, les gars, juste avant de finir, faut dire il y a le podcast aux premières loges qui va débuter officiellement parce que là, c'était le dernier Jason Ballon rond avant la Coupe du Monde. Allez voir ça pour ceux qui écoutent. Aux premières loges, podcast quotidien à chaque fois qu'il va y avoir des matchs de Coupe du Monde. Mais justement, pour faire un petit trailer, je pourrais dire, sur ces aux premières loges, là, je veux que vous nommiez seulement votre prétendant, celui que vous pensez qu'il va gagner la Coupe du Monde, sans explication. On va les explications, on va les donner aux premières loges. Je veux juste le nom de la nation et c'est tout. Tom, qui va gagner cette Coupe du Monde?
Oh my God, écoute, ça va changer certainement, mais...
Ça, c'est pas grave.
Le Brésil.
Brésil. D'où?
Moi, je crois que ça va être l'Angleterre.
Angleterre? Nick?
Brésil aussi.
Moi, j'y vais avec le Brésil aussi. On a trois Brésil, un Angleterre. Eh bien, que c'est intéressant. Allez écouter ça sur, aux premières loges. Et c'est ce qui va conclure ce deuxième épisode de Jason Ballon Rond. Ça nous a fait plaisir d'avoir jasé de soccer avec vous pendant 1h10, vraiment. Tom, Dou, Nick, merci beaucoup pour votre très bonne participation.
Yes. Ah, c'était le fun.
Ouais, vraiment.
Ouais.
Et on se revoit très bientôt pendant la Coupe du Monde. Je le rappelle, mesdames et messieurs, la Coupe du Monde au 14. Ça va être très excitant. Restez là, restez à l'affût. Et je vous souhaite une excellente soirée. C'était Olivier Prince-Groslot à l'animation. Salut!